Installé devant le cube holographique de Moniteur 2, Fred, en complet brouillé, observait passivement l'hologramme qui ne cessait de changer de forme sous ses yeux. Dans le reste de l'appartement, d'autres épieurs épiaient d'autres holos, des playbacks pour la plupart. Fred, lui, suivait le déroulement d'un holo en direct. La scène passait à l'enregistrement en ce moment même, mais Fred avait sauté toute la bande déjà stockée pour capter ce qui lui parvenait à cet instant précis de la maison prétendument délabrée de Bob Arctor. À l'intérieur de l'hologramme couleur sur large bande à très haute définition, on distinguait Baris et Luckman. Assis sur la meilleure chaise du living, Baris se tenait penché au-dessus de la pipe à hache qu'il fabriquait depuis plusieurs jours. Son visage était l'image de la concentration, tandis qu'il enroulait un fil blanc autour du fourneau. Installé à la table basse, Luckman avalait à grosses bouchées maladroites le contenu de son plateau télé Swanson au poulet, tout en regardant un western. Quatre boîtes de bière, vides, écrasées par sa grosse patte, traînaient déjà sur la table, et il venait d'en saisir une cinquième, à moitié pleine, qu'il renversa, puis rattrapa en jurant. À ce bruit, Baris releva la tête et le regarda comme mimeux dans Siegfried, puis il replongea dans son ouvrage.
« Putain de programme !» gargouilla Luckman, la bouche pleine.
Soudain, il laissa tomber sa cuillère et se leva d'un bond, chancela, pivota, tituba vers Baris. Il avait la bouche ouverte, sa bouffe à demi mastiquée cascadait sur ses vêtements et tombait par terre où les chats l'attendaient déjà. Baris s'interrompit une nouvelle fois pour observer le phénomène. Frénétique, Luckman émettait à présent des gargouillements atroces. D'un revers de main, il balaya la table basse et tout le plateau dégringola dans un fracas de fer blanc. Les chats filèrent comme des flèches. Baris ne remuait pas un cil. Luckman roula jusqu'à la cuisine, où Moniteur 1 prit le relais. Terrifié, Fred vit Luckman tâtonner dans la pénombre, s'emparer d'un verre et tenter d'ouvrir le robinet de l'évier. Fred se leva d'un bond. Il repassa à Moniteur 2 et resta médusé. Baris, qui n'avait pas bougé d'un pouce, se remettait à enrouler avec application son fil blanc autour du fourneau de la pipe. Il ne releva pas les yeux. La bande-son diffusait une angoissante cacophonie. Bruit de suffocation, tintamarre furieux de la batterie de cuisine frappant les murs et le sol à mesure que Luckman balançait pots et casseroles dans l'espoir d'attirer l'attention de Baris. Mais celui-ci, dans l'autre pièce, s'appliquait à son ouvrage sans se troubler le moins du monde. Retour à Moniteur 1. Luckman s'écroulait sur le sol de la cuisine. Pas lentement, en pliant d'abord les genoux, mais d'un seul coup, avec un bruit mou. Il resta étendu les bras en croix. Baris façonnait toujours sa pipe, mais à présent, il souriait en biais, un sourire sournois. Debout devant ses cubes holos, Fred ne savait plus si ce spectacle le paralysait ou déchaînait sa fureur. Il tendit le bras pour s'emparer du téléphone relié à la police, s'interrompit, resta la main en l'air. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans le moindre changement. Luckman au tapis et Baris penché sur son ouvrage, comme une vieille dame sur son tricot, avec ce mauvais sourire qui ne quittait pas ses lèvres. Soudain, il mit la pipe de côté, se leva et contempla attentivement la forme inerte de Luckman, le verre brisé à côté de lui, les débris de vaisselle et les casseroles. D'un seul coup, Baris afficha les signes d'une panique simulée. Il arracha ses lunettes, roula des yeux effarés, agita les bras pour traduire son impuissance, se mit à courir en tous sens comme un poulet affolé, fonça vers Luckman, s'arrêta à quelques centimètres du corps, puis, hors d'haleine, fit demi-tour. « Il répète son numéro », se dit Fred. « Il répète le numéro du mec qui vient d'arriver sur les lieux et de faire l'horrible découverte. » Sur Moniteur 2, Baris, le visage cramoisi, haletait et se tordait. Il se décida enfin à clopiner jusqu'au téléphone, qu'il souleva d'une main tremblante. Ne venait-il pas de trouver son copain Luckman étendu sur le carreau, apparemment étouffé par une bouchée avalée de travers? Sans personne qui pût l'entendre ou lui porter secours? À présent, Baris se démène comme un beau diable pour trouver de l'aide. Trop tard. Baris parlait dans le combiné. Sa voix était bizarrement aiguë.
« Opératrice, je voudrais... Appelle-t-on ça la brigade résurrectionnelle ou l'équipe volante du bouche-à-bouche ?»
Le téléphone était sur table d'écoute et Fred put capter la réponse.
« Que se passe-t-il, monsieur? Quelqu'un qui n'arrive plus à respirer ?»
La voix de Baris avait repris son timbre normal. une voix grave, calme, docte et professionnelle, mais consciente de la gravité de la situation et du peu de temps disponible. «
C'est, je crois, un arrêt du cœur, à moins qu'il ne s'agisse d'une aspiration involontaire du bol alimentaire par... »«
Quelle adresse, monsieur ?»
coupa l'opératrice.
« L'adresse ? Eh bien, voyons, l'adresse est... »«
Bon Dieu de merde !» cria Fred, qui n'en pouvait plus. Tout à coup, Luckman se souleva avec un tressaillement. Son corps fut agité de spasmes et il vomit tout ce qui lui obstruait la gorge, puis ouvrit des yeux gonflés et tout égarés.
« Il semble que tout aille bien à présent, » annonça doucement Barris. « Je vous remercie. Nous n'aurons pas besoin d'aide, en fin de compte. »
Il raccrocha rapidement.
« Seigneur !» grasseya Luckman en se redressant. « Merde !»
Il sifflait comme un asthmatique, toussait et respirait péniblement.
« Tu te sens bien ?» fit Barris, plein de sollicitude.
« Ah, j'ai dû m'étouffer. Est-ce que j'ai tourné de l'œil ?»
Pas exactement, mais tu as dû passer pendant quelques secondes à un autre niveau de conscience, probablement en onde alpha.
Merde, je m'en suis foutu partout!
Luckman parvint à se relever tout à fait. Gagné par une sorte de vertige, il chancela et dut s'appuyer au mur. Ses jambes étaient encore faibles.
Quel dégénéré je suis en train de devenir!
Le dégoût perçait dans sa voix.
On dirait un vieil alcoolo!
Il marcha péniblement jusqu'à l'évier et commença à se laver. Tout en le suivant des yeux, Fred sentit la peur refluer. Luckman allait s'en tirer, mais Barris, quelle sorte de mec était-ce donc? Si Luckman en réchappait, ce n'était pas grâce à lui. Quel taré! Dans quel trip promène-t-il sa tête pour agir comme ça?
« Y a de quoi claboter avec un truc pareil !»
fit Luckman en s'aspergeant le visage. Barris sourit.
« Je dois être vachement costaud !»
constata Luckman, qui buvait à présent de l'eau à grosse lampée.
« Qu'est-ce que tu foutais pendant que j'étais par terre, Barris? Tu te branlais ?»«
Tu m'as vu en train de téléphoner? J'essayais de faire venir le SAMU. Je me suis mis en mouvement dès que... »«
Dès que, oui !»
Luckman engloutit une autre tasse d'eau fraîche.
« Tu veux que je te dise ce que tu ferais si tu me voyais en train de claboter? Tu me piquerais mon stock! Et même, tu me ferais les poches !»«
N'est-ce pas étrange ?» fit Barris. De constater les limitations de l'anatomie humaine, le fait que l'air et la nourriture doivent emprunter un passage commun, de sorte que le risque...
Luckman lui coupa la parole d'un bras d'honneur.
Hurlement de frein. Coup d'avertisseur. Bob Arctor lève la tête et scrute le crépuscule grouillant de véhicules. Près du trottoir, une voiture de sport qui tourne au ralenti et dedans, une fille qui lui fait signe. C'était Donna.
« Ça alors !» dit-il en s'approchant de la bordure du trottoir. Donna ouvrit la portière de sa MG.
« Je t'ai fait peur ? Je t'ai croisé alors que j'allais te voir. J'ai mis une minute à comprendre que c'était toi. J'ai fait demi-tour et me voici. Monte !»
Il obéit et referma la portière.
« Que fais-tu dehors à rôder si tard ? » demanda-t-elle. « Ta voiture n'est pas encore réparée ?»
Je viens d'avoir un flash dément. Pas comme une séquence fiction. Juste...
J'ai ta marchandise.
Quoi donc?
1000 cachets de mort.
De mort?
Oui, de mort premier choix. Allons-y.
Elle passa en première ligne et rejoignit la circulation. Il ne lui fallut pas une minute pour rouler trop vite. Donna roulait toujours trop vite et ne respectait pas les distances entre véhicules. Mais c'était une experte.
Foutu Barris, se dit-il. Tu sais comment il fonctionne celui-là? Il ne tue pas les gens dont il souhaite la mort, non. Il se contente d'attendre que se présente une situation où les gens risquent leur peau, et il reste assis les bras croisés à les regarder crever. En fait, il provoque ces situations, mais sans se mouiller. Je sais pas comment. En tout cas, il s'arrange pour que les autres aient une chance d'y rester. Il se tut un moment avant d'ajouter pour lui-même. Barris n'irait pas coller un pain de plastique dans ta voiture et le relier à l'allumage. Oh non. Ce qu'il ferait...
As-tu l'argent ?
Pour la dope. Elle est vraiment primo. Et j'ai besoin de ce blé. J'en ai besoin ce soir pour me procurer d'autres trucs. Oui, je l'ai. Les billets se trouvaient dans son portefeuille. Je n'aime pas Barris. Et je ne lui fais pas confiance. Il est cinglé, tu sais. Et quand tu es avec lui, tu deviens cinglé aussi. Tout seul, tu es normal. En ce moment, tu es cinglé.
Moi ?
Oui.
Eh ben ça alors. Il ne savait que répondre.
Surtout que Donna avait toujours raison.
« Dis, tu pourrais m'emmener à un concert de rock ?»
Elle parut s'animer tout à coup.
« La semaine prochaine, à l'Anaheim Stadium. Tu peux ?»«
C'est vendu, » fit-il mécaniquement. Soudain, il comprit ce que cela signifiait. Donna lui avait demandé de sortir avec elle.
« Et comment ? » s'exclama-t-il.
Le sang circulait à nouveau dans ses veines. La petite brune dont il était si fort amoureux venait encore une fois de lui redonner goût à la vie.
« Quel soir ? » ?»«
C'est dimanche après-midi. J'apporterai un peu de ce hache sombre et on se chargera à bloc. Personne ne remarquera. Il y aura des milliers de freaks. »
Elle l'inspecta d'un œil critique.
« Mais je veux que tu te sapes bien. Pas de ces fringues miteuses que tu portes parfois. Ce que je veux dire... »
Sa voix s'adoucit.
« Je veux que tu aies l'air cool parce que tu es cool. »
« D'accord. » Il était aux anges.
« Je nous ramène chez moi. Tu as l'argent, tu vas me le donner, et on prendra quelques doses. On planera gentiment, et si tu sors nous acheter une flasque de Southern Comfort, on pourra se bourrer en même temps. »
« Chouette. » Il le pensait sincèrement.
« Ce que j'aimerais vraiment faire ce soir, ce serait d'aller dans un drive-in. J'ai regardé les programmes et je n'ai rien trouvé de terrible, sauf au Torrance. Seulement, on s'est déjà commencé depuis 5h30. Pas de peau. »
Il consulta sa montre. Alors on a raté ?
Non, on pourrait encore voir l'essentiel.
Elle coupa le moteur et le regarda en souriant tendrement.
Ils font une nuit blanche avec toute la série de la planète des singes, les 11 films, de 5h30 à 8h demain matin. J'irai bosser directement après la séance, alors je vais me changer tout de suite. On passera la nuit au drive-in à planer et à picoler. Ça te plaît, non ?
Elle lui jeta un regard d'encouragement. Toute la nuit, répéta-t-il.
Dis oui, dis oui.
Elle s'éjecta d'un bond et fit le tour de la voiture pour l'aider à s'extraire de son siège.
Quand as-tu vu toute la série de la planète des singes pour la dernière fois ? J'ai vu la plupart au début de l'année, mais je me suis senti mal vers la fin et j'ai dû partir. À cause d'un sandwich jambon qu'ils m'ont vendu au drive-in. Ça m'a vraiment fait râler. J'ai raté le dernier film. Celui où ils expliquent que tous les grands personnages de l'histoire de Lincoln à Néron étaient en réalité des singes et qu'ils ont tout contrôlé depuis le début. C'est pour ça que j'ai tellement envie d'y retourner. »
Elle baissa la voix en approchant de sa porte.
« Ils m'ont vraiment arnaqué en me vendant ce sandwich. Alors moi, tu me dénonceras pas. Quand je suis retournée là-bas, ça se passait au drive-in de la Habra. J'ai collé une pièce tordue dans la fente du distributeur et aussi dans quelques autres appareils pour faire bonne mesure. Moi et Larry Teeling, tu te souviens de Larry ? Je sortais avec lui. On a tordu tout un tas de pièces de 25 et 50 cents en utilisant l'étau de son établi et une grosse clé. Je me suis assuré que tous les distributeurs appartenaient à la même firme et on en a bousillé un sacré paquet, presque tous à vrai dire. Si ça se savait. »
Dans la lumière déclinante, elle ouvrit sa porte lentement et avec application.
« Ça ne rapporte pas de t'arnaquer, Donna. »
Ils pénétrèrent dans son petit appartement propre.
« Ne marche pas sur mon tapis de peluche, » dit-elle.
« Ou alors ? » ?»«
Reste sur place, ou bien marche sur les journaux. »«
Donna ! » !»«
Ne viens pas me chercher d'histoire parce que je te demande de marcher sur les journaux. Tu sais combien ça m'a coûté, le shampoing de ce tapis ?»
Elle dégrafa son blouson.
« Radine !»
Il ôta son manteau.
« Radine comme une vieille paysanne française. Est-ce qu'il t'arrive jamais de jeter quelque chose ? Est-ce que tu conserves les vieux bouts de ficelle trop courts pour... »
Donna se débarrassa de son blouson et secoua ses longs cheveux noirs.
« Un de ces jours, je me marierai. Et j'aurai besoin de tout ça, de tout ce que j'ai pu mettre de côté. Quand on se marie, on a besoin d'une foule de choses. Tu as vu cette grande glace, dans la cour voisine ? Il a fallu se mettre à trois pendant plus d'une heure pour la faire passer par-dessus la barrière. Un jour...
« Combien de ce que tu possèdes a été acheté ? Et combien a été volé ?»«
Acheté ?»
Elle le dévisagea d'un air incertain.
« Que veux-tu dire par là ?»«
Comme quand tu achètes de la drogue. Un deal, comme ceci. »
Il sortit son portefeuille.
« Je te file de l'argent, d'accord ?»
Donna approuva de la tête, d'un air obéissant mais digne. À vrai dire, elle semblait l'écouter par politesse et avec une certaine réserve.
« Toi, tu me donnes une certaine quantité de dope en échange. »
Il lui tendit les billets.
« Ce que j'entends par « acheter, Donna » est un prolongement dans le vaste monde des affaires humaines de ce que nous faisons à cet instant, du deal. »
« Je crois que je comprends. »
Elle l'observait placidement, mais non sans vivacité. Du moins, ne refusait-elle pas d'apprendre.
« Combien... Prenons l'exemple de ce camion de Coca-Cola, celui que tu as suivi en lui collant au train.
Combien de bouteilles as-tu volées ce jour-là? Combien de caisses?
De quoi tenir un mois, pour mes amis et moi.
Il lui jeta un regard désapprobateur.
C'est une forme de troc, ajouta-t-elle.
Et qu'est-ce que tu donnes? Il se mit à rire. Qu'est-ce que tu donnes en échange?
Je paie de ma personne.
Là, ce fut la franche hilarité. À qui? Au chauffeur de camion qui a probablement dû faire une bonne.
La compagnie Coca-Cola est un monopole capitaliste. Personne d'autre n'a le droit de fabriquer du Coca-Cola. C'est comme pour la compagnie du téléphone. Il s'agit toujours de monopole capitaliste. Sais-tu,
ses yeux noirs lancèrent un éclair,
que la formule du Coca est un secret bien gardé, transmis de génération en génération et connu seulement d'un petit nombre de membres de la même famille, de sorte que lorsque le dernier détenteur de la formule mourra, il n'y aura plus de Coca. Quelque part, la formule écrite est bouclée dans un coffre.
Elle parut songeuse.
« J'aimerais bien savoir où, » conclut-elle avec un battement de cils.
« Toi et tes petits copains de la fauche, vous ne trouverez jamais la formule du Coca-Cola. Pas même si on vous donne 1 million d'années. »
« Et qui voudrait fabriquer du Coca quand il est si facile de le piquer sur leur camion ?»«
Il n'en manque pas de camions. On les voit partout rouler à petite allure. Moi, je n'arrête pas de leur coller au train. Ce que ça les énerve !» Elle lui adressa un petit sourire de lutin malicieux, comme si elle voulait l'attirer par la séduction dans son monde étrange, où elle serrait de près un camion poussif en s'énervant de plus en plus jusqu'à ce que l'autre se range sur le côté. Et alors, au lieu de foncer comme n'importe qui, elle se garait à son tour et piquait tout le contenu du camion. Pas parce qu'elle était une voleuse, ni même pour se venger, mais parce qu'à force de s'user le regard sur ses caisses de coca, elle avait fini par leur trouver une utilisation. Son impatience s'était muée en ingéniosité. Ce jour-là, elle avait empilé les caisses de coca dans sa voiture. Pas la MG, mais la Camaro qu'elle conduisait à l'époque, avant de la bousiller complètement. Pendant un mois, ses petits branleurs de copains avaient sifflé gratis tout le coca qu'ils pouvaient avaler. Et après ça, elle avait rapporté les verres dans diverses épiceries pour récupérer la consigne. « Et les capsules ?» lui avait-il demandé un jour. « Tu les as emballées dans du caoutchouc mousse et tu les gardes dans ton vieux coffre en cèdre ?»
« Je les ai jetés, » fut la réponse, lugubre. « On ne peut rien faire d'une capsule de coca. Ils ne font plus de concours comme avant. »
Donna disparut dans l'autre pièce et revint avec plusieurs sachets de polyéthylène.
« Tu veux les compter? Je te garantis qu'il y a 1000 cachets. Je les ai pesés sur ma balance avant de payer. »
« Pas la peine. » Il prit les sachets, elle empocha les billets, et il pensa une fois de plus. « Donna, je pourrais te faire boucler. » Mais il est probable que je ne m'y résoudrai jamais, quoi que tu puisses faire, et même si j'en suis la victime, parce qu'il y a en toi quelque chose de merveilleux, de doux et de vivant que je ne veux pas détruire. Je ne comprends pas ce que c'est, mais je sais que c'est là.
« Peux-tu m'en donner 10 ?» demanda-t-elle.
« 10 cachets, naturellement. » Il ouvrit l'un des sachets, le nœud était dur à défaire, mais il avait la pratique, et compta 10 cachets, plus 10 pour lui-même, après quoi il referma le sac et porta le tout dans son manteau, à l'intérieur de la penderie.
« Tu sais ce qu'ils font chez les disquaires à présent ?» demanda-t-elle énergiquement à son retour. Il ne vit plus trace des 10 cachets qui avaient déjà rejoint leur planque. « Au sujet des cassettes ?»«
Ils t'arrêtent si tu les piques. »«
Ça, ils l'ont toujours fait. Mais il y a autre chose. Tu sais, quand tu apportes un album ou une cassette à la caisse, l'employé ôte la petite étiquette où est marqué le prix. Eh bien, devine quoi ? Devine ce que j'ai failli apprendre à mes dépens. »
Elle se laissa tomber sur une chaise, souriant à l'avance, et saisit un petit cube enrobé de papier argenté qu'Arctor identifia comme un morceau de hache avant même qu'elle l'eût ouvert.
« Eh bien, ce n'est pas seulement un bout d'adhésif. Il contient un alliage quelconque. Et si l'employé n'ôte pas la pastille, ça déclenche une sonnerie quand tu essaies de franchir la porte. »
« Pourquoi dis-tu que tu as failli l'apprendre à tes dépens ?»«
Une petite nana qui me précédait a essayé de sortir avec une cassette sous son manteau. » « Signal d'alarme, les types du magasin qui s'emparent d'elle, les flics qui s'amènent, etc. »«
Et toi, combien en avais-tu sous ton manteau ?»«
3. »«
Est-ce que tu trimbalais de la daube dans ta voiture ?»« Parce que quand ils t'embarquent pour un larcin, ils confisquent aussi ta voiture. »« Pendant que tu n'emmènes pas large au poste de police, ils enlèvent ta voiture et la mettent au dépôt. »« C'est un boulot de routine. »« Mais voilà qu'ils découvrent la drogue et ils te font plonger pour ça aussi. »« Et je parie que tu n'as pas fait ça dans le coin. »« Je parie que tu as fait ça là où... »
Il allait dire, là où tu ne connais personne du côté du manche, personne qui pourrait intervenir en ta faveur. Mais il ne pouvait pas dire ça, car c'était de lui qu'il s'agissait.
Si Donna se faisait arrêter, il se démènerait comme un beau diable pour la tirer de là. Mais il ne pourrait rien faire, par exemple, dans le Nord, dans le comté de Los Angeles. Et si, comme il ne doutait pas que ça se produirait à la longue, elle avait un pépin de ce genre, ce serait sûrement là-bas, trop loin pour qu'il soit mis au courant et puisse apporter son aide. Une séquence fiction commença à se dérouler dans sa tête, un film d'épouvante. Donna en train de mourir sans que personne l'entende ou s'en soucie, comme Luckman. Et si des gens l'entendaient, il se comporterait comme Barris. Il ne lèverait pas le petit doigt jusqu'à ce que tout soit fini pour elle. Elle ne mourrait pas littéralement dans le sens où Luckman était mort, était, aurait pu mourir plutôt. Accrochée à la substance M, Donna serait sevrée en prison. Elle connaîtrait les tortures du manque intégral. La peine encourue pour le deal, s'ajoutant à celle du vol, la garderait à l'ombre pour un bon bout de temps. Et beaucoup d'autres choses, des choses atroces, lui arriveraient. La Donna qui sortirait de prison ne serait plus celle qu'il avait connue. Sa douceur, son air attentif, sa chaleur, tout ça aurait été remplacé par Dieu sait quoi, en tout cas par quelque chose de vide et d'usé. Donna changeait en chose. Ça les guettait tous, tôt ou tard. Mais il espérait que pour Donna, ce jour était encore très loin et ne viendrait pas de son vivant. Pas quelque part où lui-même devrait rester impuissant. « Spunky, » dit-il tristement, sans Spooky. « Que veux-tu dire ?» Elle mit quelque temps à comprendre. « Oh, tu penses à l'analyse transactionnelle ? Mais moi, quand je fais du hache... » Elle produisit sa propre pipe de céramique, petite et ronde, qu'elle avait fabriquée elle-même, la remplit et l'alluma. « Je suis Sleepy. » Elle leva vers lui un regard brillant, se mit à rire, et lui passa la précieuse pipe de hache. « Assieds-toi, » dit-elle. « Je vais te faire une supercharge. » Dans le même temps, elle se leva, tira quelques bouffées pour obtenir une bonne combustion, puis vint vers lui en ondulant des hanches, se pencha, et lorsqu'il ouvrit la bouche, tel un oiseau attendant la béquée, c'est l'image qui lui venait toujours quand elle faisait ça, elle lui souffla de forts jets de fumée dans la gorge, lui communiquant aussi sa chaleur, son indomptable énergie. Ce rituel, du même coup, apaisait et détendait les deux partenaires. Celle qui donnait la supercharge et celui qui la recevait. « Je t'aime, Donna. » La supercharge était l'offrande sexuelle de Donna, le substitut à l'acte d'amour de sa part, et c'était peut-être meilleur. Ça valait tant de choses. C'était tellement intime. Étrange aussi, car elle introduisait quelque chose en lui, tout comme lui après, si elle l'acceptait, la pénétrerait. Un échange équitable, un va-et-vient, jusqu'à épuisement du hache.
Oui, je peux comprendre ça. Oui, tu m'aimes, je comprends.
Elle eut un petit rire, s'assit à côté de lui et aspira une nouvelle bouffée, pour elle-même cette fois.